Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Benjamin Netanyahou prévient Jared Kushner, Israël ne se retirera pas de la bande de Gaza avant le désarmement complet du Hamas.
Donald Trump confirme l'existence de contacts secrets entre Washington et les gardiens de la révolution iranien, alors que le délai de 60 jours prévu dans le protocole d'accord est arrivé à son terme. Le Télégraphe dévoile que la Russie construit de nouvelles bases pour ses drones en Europe et pourrait menacer l'OTAN. En Belgique, l'incendie qui ravageait les Hauts-de-Fagne depuis vendredi ne progresse plus. Deux pompiers intoxiqués au monoxyde de carbone sont à l'hôpital dans un état stable.
Après 90% du dépouillement des votes, le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, arrive en tête de l'élection primaire au Likoud. Nir Barkat, ministre de l'Économie, pourrait être le grand perdant de ce scrutin.
Benjamin Netanyahou prévient Jared Kushner, Israël ne se retirera pas de la bande de Gaza avant le désarmement complet du Hamas.
L'accord stipulait qu'il n'y aurait ni redéploiement ni reconstruction tant que le Hamas ne serait pas désarmé dans toute la bande de Gaza, a déclaré un haut responsable israélien au sortir de la réunion de 4 heures entre le Premier ministre Netanyahou, Jared Kushner, Nikolai Mladenov, le coordinateur en chef du Conseil de la paix, et l'ex-chef du gouvernement britannique et membre du Conseil de la paix, Tony Blair. Le Premier ministre a été très clair, l'armée israélienne ne reculera pas et continuera de contrecarrer activement toute tentative d'attaque contre nos forces et contre notre peuple, a déclaré ce haut responsable israélien, qui a ajouté qu'Israël allait respecter ses engagements humanitaires en soutenant tout effort visant à améliorer l'assainissement de l'eau et à répondre à toute autre préoccupation sanitaire et environnementale dans la bande de Gaza. Fin de citation.
Jared Kushner, de son côté, rassure Benjamin Netanyahou sur le processus de désarmement du Hamas.
Selon un haut responsable israélien, le gendre du président Trump a clairement indiqué au Premier ministre israélien que la reconstruction de Gaza ne commencerait qu'après l'achèvement du processus de démilitarisation et que le Conseil de la paix soutenait le droit d'Israël d'agir contre les menaces imminentes du Hamas. Seulement, Israël ne doit pas définir les menaces imminentes de manière trop large, a déclaré un responsable américain. Le processus de désarmement du Hamas sera supervisé et encadré par le général américain Jasper Jeffers. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement israélien a insisté auprès de Jared Kushner pour connaître les raisons qui l'ont conduit à rencontrer de hauts responsables du Hamas en Égypte. Je voulais entendre leur engagement en faveur du désarmement directement de leur part, en face à face, a déclaré l'envoyé spécial américain.
Et Benjamin Netanyahou et Jared Kushner ont convenu d'un mécanisme de déconfliction dans la bande de Gaza.
Les bureaux du Premier ministre Netanyahou ont indiqué que les deux parties s'étaient entendues sur la création de deux groupes de travail axés sur la démilitarisation de Gaza et les besoins humanitaires, sans toutefois préciser la composition ni le rôle exact de ces groupes. Le chef du gouvernement israélien fait part de son scepticisme marqué quant à l'engagement du Hamas de déposer les armes. Benjamin Netanyahou a fait participer à la réunion le chef du Shin Bet David Zinni et le chef du renseignement militaire Shlomi Binder pour informer l'émissaire américain des violations présumées par le Hamas du plan Trump.
Et toujours dans ce contexte, le Conseil de la paix doit donc réfléchir à un nouveau cadre visant à aboutir au désarmement du Hamas.
Une fois le désarmement du Hamas achevé, Tsahal serait tenu de faire reculer ses troupes de l'actuelle ligne jaune qui coupe en deux la bande de Gaza vers une nouvelle ligne rouge située à proximité de l'ancienne barrière de sécurité qui séparait Israël du territoire gazaoui et qui avait déjà été délimitée dans le plan Trump signé au mois d'octobre 2025. Le Conseil de la paix réfléchit aussi au désarmement du Hamas d'un seul bloc et non secteur par secteur, comme le prévoit le plan en 15 points, une nouvelle donne qui nécessiterait l'approbation du Hamas. Certains diplomates des pays arabes impliqués dans les discussions ont critiqué en coulisses la volonté des Américains et du coordinateur en chef du Conseil de la paix, Nikolai Mladenov, de se mettre d'accord sur un plan de désarmement avant les élections en Israël. Nous savions d'avance que le Premier ministre Netanyahou ne ferait aucune concession d'envergure avant le scrutin, affirment plusieurs hauts responsables des pays musulmans de la région. Et les présidents Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump se sont entretenus par téléphone sur l'Iran, mais aussi sur Gaza.
Le président turc a plaidé pour la poursuite des négociations entre Washington et Téhéran et réaffirmé le soutien d'Ankara à la reconstruction de Gaza. Le dirigeant turc a également évoqué l'accord de défense conjoint qu'il a signé avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite, estimant que ce partenariat témoignait d'une volonté commune de renforcer la stabilité et la sécurité régionale. Sans surprise concernant Gaza, Recep Tayyip Erdogan a dénoncé une intensification des actions israéliennes contre les Palestiniens.
Et le président libanais Joseph Aoun a appelé lundi à prolonger le mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL.
Selon un communiqué de la présidence libanaise, le maintien de la FINUL encouragerait les habitants à rester dans les villes et villages. Sa coordination avec l'armée libanaise contribuerait également à renforcer la stabilité dans la région. Joseph Aoun a par ailleurs reconnu les difficultés qu'il rencontrait dans l'application de l'accord cadre conclu avec Israël. Présente entre Israël et le Liban depuis 1978, la FINUL compte aujourd'hui près de 8200 militaires issus de 47 pays. Ces dernières années, la FINUL s'est retrouvée au cœur de tensions entre Israël et le Hezbollah. Tal accuse le groupe terroriste libanais d'avoir mené des attaques depuis des sites situés à proximité des positions de la force onusienne sans que celle-ci réagisse. En août 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait approuvé une ultime prolongation du mandat de la FINUL jusqu'au 31 décembre 2026, décision qui avait été adoptée malgré les pressions d'Israël et des États-Unis en faveur de la fin de leur mission. Quatre frappes ont ciblé l'aéroport militaire d'Abu Al-Oudour, près d'Idlib, au nord de la Syrie. L'origine des appareils impliqués n'a pas été établie. Selon Al Jazeera, il pourrait s'agir d'avions israéliens. Aucune confirmation officielle n'a été communiquée par Israël ni par les autorités syriennes. Tal révèle avoir retrouvé la dépouille du dernier disparu de la bataille de Sultan Yacoub au Liban en 1982.
Nous avons trouvé la dépouille de Yehuda Katz, affirme l'armée israélienne ce matin. Yehuda Katz était le dernier disparu de la bataille de Sultan Yacoub de la première guerre du Liban de 1982. Une bonne nouvelle qui intervient après le rapatriement du corps de Zvi Feldman en 2025, mené lors d'une opération secrète du Mossad, et celui du corps de Zakaria Baumel. C'était au mois d'avril 2019. Il avait été rapatrié de Syrie avec l'aide des Russes.
Un responsable politique du Hezbollah indique que son organisation refuserait de déposer des armes.
Mahmoud Kamati, membre du conseil politique du Hezbollah, a en effet déclaré que son organisation conserverait ses armes tant que celles-ci constitueraient une nécessité, je cite, et un besoin national libanais urgent, au même titre que son emprise territoriale. Nous ne cédons rien, nous ne remettrons pas les armes en échange de nos terres, nous voulons ces armes car elles sont la force du Liban pour se défendre et nous préservons nos terres car elles nous appartiennent. Cette occupation doit cesser sans condition, a-t-il déclaré dans son discours. L'élu terroriste s'en est pris au président Aoun et au gouvernement libanais en les accusant, je cite, de comploter contre le peuple et de contribuer à verser le sang des membres du Hezbollah. Ils doivent comprendre que nous restons patients. Je ne sais pas jusqu'à quand la décision sera prise ultérieurement. Par ailleurs, alors qu'on le disait, le président libanais souhaite renouveler le mandat de la FINUL. Un responsable du département d'État américain a déclaré au journal libanais Nida Al-Watan que Washington s'oppose pour le moment au renouvellement du mandat de la FINUL au sud du Liban. Donald Trump confirme l'existence de contacts secrets entre Washington et des responsables des gardiens de la révolution iranien, alors que le délai de 60 jours prévu dans le protocole d'accord arrive à son terme.
Selon Axios, la médiation a été confiée à Nechirvan Barzani, le président du gouvernement régional du Kurdistan irakien, qui parle perse et entretient des relations personnelles avec plusieurs membres du régime islamique. Malgré ce canal discret, les déclarations publiques restent menaçantes. Donald Trump a estimé sur Fox News que l'Iran devait capituler, tout en assurant qu'il n'était pas pressé de parvenir en accord, et menacé de frapper Oman si le Sultanat faisait obstacle au contrôle américain dans le détroit d'Ormuz. Sur Truth Social, le président américain a répété que sa priorité absolue était d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Téhéran hausse également le ton. Un haut responsable iranien a prévenu Reuters qu'en cas d'échec diplomatique, l'Iran continuera d'intensifier les tensions dans le détroit d'Ormuz et dans toute la région. Les négociations secrètes se poursuivent donc. Elles sont dans l'impasse et sous la menace d'une nouvelle escalade.
Et le nombre de navires traversant le détroit d'Ormuz restait inférieur à 10 lundi, malgré une légère hausse par rapport au week-end.
10 navires de transport ont traversé le détroit lundi officiellement, 3 samedi et 2 dimanche. Aucun très grand pétrolier ni aucun méthanier transportant du gaz naturel liquéfié n'a traversé le détroit récemment. C'est toujours un problème pour la région.
Et la guerre contre l'Iran commence à coûter cher politiquement à Donald Trump. Selon un nouveau sondage Reuters Ipsos, sa cote de popularité tombe à 33%, son niveau le plus bas depuis son retour à la Maison-Blanche.
Cette baisse s'explique notamment par l'inquiétude autour de l'engagement militaire américain contre Téhéran. Près de 8 personnes sur 10 interrogées par ce sondage pensent que cette intervention va s'inscrire dans la durée. Une situation embarrassante pour Donald Trump, qui avait pourtant promis pendant sa campagne d'éviter les guerres interminables et de contenir l'inflation. Or, le blocage persistant d'une grande partie du trafic pétrolier dans le détroit d'Hormuz a provoqué une hausse des prix de l'énergie dans le monde entier, directement ressentie par les ménages américains. À quelques mois des élections de mi-mandat, cette impopularité de Donald Trump pourrait également fragiliser les candidats républicains qui tentent de conserver leur majorité au Congrès.
En Belgique, l'incendie qui ravage les Hautes-Fagnes depuis vendredi n'a plus progressé. Il n'y a plus de départ de feu dans la nuit.
Les flammes ont laissé derrière elles un paysage désolé de quelques 3000 hectares brûlés. En attendant un bilan définitif des autorités, deux pompiers ont été intoxiqués au monoxyde de carbone et transportés à l'hôpital. Leur état est stable. Le travail des pompiers durera encore des semaines, assure le ministre de l'Intérieur belge Bernard Quintin. Le parquet de Liège a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Elle ne débutera réellement que lorsque le site redeviendra accessible aux enquêteurs.
Le Télégraphe dévoile que la Russie construit de nouvelles bases pour ses drones en Europe.
La Russie a construit 10 bases secrètes pour ses drones, rapporte le Télégraphe dans son enquête. Celles-ci sont dotées de nouvelles plateformes de lancement destinées aux drones suicides, à longue portée, les plus perfectionnés de Moscou. Elles auraient d'ores et déjà été utilisées pour bombarder massivement l'Ukraine. Le Télégraphe révèle que ces installations permettraient au Kremlin de lancer des drones puissants profondément à l'intérieur du territoire de l'OTAN et de viser l'Europe en cas de conflit armé. En modernisant le drone iranien Shahid, le Kremlin serait capable de toucher des cibles à 1000 km de distance. Par exemple, ça placerait Varsovie à portée de frappe russe. Un responsable de l'Alliance transatlantique a pour sa part affirmé que l'OTAN était prête à défendre chaque centimètre du territoire allié et qu'elle continuait à développer sa capacité de défense, y compris contre les drones. C'est pour ça qu'on vous pose comme question du jour pour demain. L'Europe est-elle prête à faire face à une attaque de la Russie ?
Roi Abdallah II de Jordanie entame ce mardi une visite d'État de 6 jours en Chine à l'invitation du président chinois Xi Jinping.
Ce déplacement doit permettre de renforcer les relations économiques et diplomatiques entre Pékin et Amman, mais il sera surtout dominé par des discussions sur la situation au Moyen-Orient. La Jordanie, alliée des États-Unis, a été directement touchée par le conflit avec l'Iran. La Chine est également concernée en raison des perturbations dans le détroit d'Hormuz, une voie maritime essentielle pour ses importations d'hydrocarbures. Xi Jinping et Abdallah II doivent donc évoquer leurs relations bilatérales et les crises régionales et international. Pékin affirme adopter une position neutre dans le conflit avec l'Iran et tente de se présenter comme un acteur diplomatique capable de favoriser une désescalade, alors qu'on sait que Pékin est un allié de l'Iran qui lui fournit de l'armement. Il s'agit déjà du 9e déplacement du roi Abdallah II en Chine depuis son accession au trône en 1999, signe de relations anciennes que les deux pays souhaitent aujourd'hui approfondir.
De journaliste israélien de la chaîne I24 News a été agressé à Belfast en Irlande alors qu'elle préparait justement un reportage sur la progression de l'antisémitisme en Europe. Un suspect de 30 ans a été arrêté puis inculpé hier.
Il est notamment poursuivi pour violence avec blessure, agression contre un policier et possession d'objets considérés comme des armes dans un lieu public. Les faits se sont produits la semaine dernière. Jonathan Ravé et son caméraman Nadav Abbas étaient à Belfast et réalisaient des interviews dans la rue. Lorsqu'un homme les a entendus dire qu'ils venaient d'Israël, il les aurait alors insultés avant de tenter de s'emparer de leur matériel. Il a lancé un grand verre de bière sur le caméraman, le blessant à la tête. Les deux hommes ont finalement été mis à l'abri dans un bar. Le dossier doit maintenant être examiné par le parquet nord-irlandais. Retour en Israël à présent, Itamar Ben-Gvir soutient le plan du ministre de la Défense, Israël Katz, de transférer la gestion du maintien de l'ordre en Judée-Samarie de l'armée vers la police israélienne.
Il s'agit d'une étape importante vers la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, a déclaré le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir dans un communiqué. Dans le cadre de ce transfert d'autorité, le chef du parti Force juive a précisé, je cite, que le pouvoir de délivrer des permis de détention administrative et d'imposer des restrictions exécutives doit être transféré du ministre de la Défense au ministre de la Sécurité nationale et à la police israélienne. Jusqu'à présent, ces pouvoirs n'ont pas été utilisés contre les anarchistes ni contre les éléments des mouvements antisionistes opposés à l'État d'Israël. Il est temps d'utiliser ces outils contre les ennemis de l'État d'Israël, a affirmé Itamar Ben-Gvir. Et toujours en Judée-Samarie, deux terroristes ont justement été arrêtés près de Jenin et une centaine de sites perquisitionnés.
Les deux suspects sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal. Cette opération intervient un mois après le renforcement du dispositif militaire en Judée-Samarie. Tsahal y a déployé deux bataillons supplémentaires portant leur nombre total à 26 sur fond de forte recrudescence des attentats palestiniens et de violences commises par des extrémistes israéliens. Ces renforts pourraient rester déployés pendant tout l'été et à l'approche des fêtes juives à la rentrée. L'armée continue de réévaluer régulièrement la situation sur le terrain et se prépare à tous les scénarios. Les combattants de la police des frontières avaient également interpellé hier un habitant du camp de réfugiés de Calandia, soupçonné d'avoir participé au creusement d'un tunnel à proximité du tracé du mur de séparation dans ce secteur. Le ministre israélien de l'énergie, Eli Cohen, arrive en tête de l'élection primaire du Likoud.
Un peu plus de 75 000 militants du Likoud ont voté hier lors de cette élection, fixant le taux de participation à 53,5% aux alentours de 10 heures ici en Israël. 95% des bulletins ont déjà été dépouillés. Pour le moment, le ministre de l'énergie Eli Cohen devance le président de la Knesset Amir Ohana avec plus de 3 000 voix d'avance. En troisième position se classe Yariv Levin, le ministre de la Justice. Les candidats qui figurent parmi les 16 premières places devraient obtenir une place significative sur la liste, et ce jusqu'à la 26e position. En bas du classement, Nir Barkat, le ministre de l'économie, et Zev Elkin, arrivé avec Gideon Saar du parti Nouvel Espoir, se disputent la dernière place qualificative. Mireille Regev, ministre des Transports, se classe devant sa rivale féminine Tali Gottlieb, reléguée de manière surprenante un peu plus loin dans le classement.
Et on termine sur une note positive. Israël et la France collaborent ensemble pour lutter contre le cancer.
C'est une collaboration franco-israélienne qui s'attaque à l'un des cancers les plus difficiles à traiter. Le 22 avril dernier, une équipe du CHU de Grenoble-Alpes a implanté pour la première fois en Europe le dispositif Alpha-DART chez un patient atteint d'un cancer du pancréas localement avancé et inopérable. L'intervention s'inscrit dans l'étude clinique française Acapella, dirigée par le professeur Gaël Roth, une technologie née en Israël à partir des travaux des professeurs Yitzhak Kelson et Yona Keisari de l'Université de Tel Aviv qui ont conduit à la création d'AlphaTau Medical en 2016. Son principe, de minuscules sources contenant du radium-224 sont implantées directement dans la tumeur. Elles libèrent des particules alpha à très haute énergie sur une distance extrêmement courte afin de détruire les cellules cancéreuses tout en limitant l'atteinte des tissus sains voisins. À Grenoble, le dispositif est introduit de manière mini-invasive à travers les voies digestives sous contrôle éco-endoscopique. L'essai concerne des patients dont le cancer est localement avancé, non opérable et stabilisé après une première chimiothérapie. Les premiers résultats obtenus dans d'autres essais restent préliminaires mais sont encourageants. Des données concernant 58 patients traités dans 3 études en Israël et au Canada ont été présentées au congrès 2026 de l'American Society of Clinical Oncology. Parmi les patients évaluables, les taux de contrôle de la maladie atteignent 87% et le taux de réponse objectif 27% avec 3 réponses complètes et 9 partielles. L'enjeu est majeur. Le cancer du pancréas reste l'un des cancers au pronostic le plus sombre et une partie importante des patients ne peut pas bénéficier d'une intervention chirurgicale. Après Grenoble, un premier patient a également été traité en mai dernier à l'Institut du pancréas de l'Université de Vérone en Italie.